quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, à bicyclette, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, Sébastien, et puis Paulette.
Radio G. Aujourd'hui, nous sommes une équipe en enregistrement à distance, donc on n'aura pas Josiane avec nous aujourd'hui, mais bon, il y a quand même Ricardo. Bonjour Ricardo.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Marc.
Oui, bonjour, bonjour à vous.
Jean-Jacques.
Bonjour tout le monde.
Et Valentine qui va un petit peu féminiser l'émission du jour.
Bonjour à tous.
Comme à notre habitude, on va découvrir une année mystère. Et pour ça, je vous propose d'écouter le premier titre de la sélection musicale, je le précise, cette semaine, de Valentine, qui a choisi pour vous Patricia Cass avec Mademoiselle chante le blues. À tout de suite.
Des gosses au fond d'un HLM, y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine, y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême, et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles, y'en a qui ont peur plus de jouer les sex symboles, y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge, mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines, y'en a qui font la cour masculine, féminine, y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. Y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma team. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge, mademoiselle chante le blues. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge, mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix, elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, le blues.
Donc c'était Patricia Carcasse avec Mademoiselle Chante le Blues. Une grande chanteuse, hein, quand même, une chanteuse avec du coffre et de la voix.
Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? On l'entend plus?
Alors ben là, je crois qu'elle fait des nouilles à cette heure-là.
Il y a des chances, oui.
Avec du fromage?
Bon, Jean-Jacques et Marc, ça vous évoque quelques souvenirs, cette chanson, dans l'année mystère en question ou pas?
Ouais, moi, je l'ai bien dans la tête. Je trouve qu'elle est superbe. Hein. C'est une des chansons qui fait tilt tout de suite quand je l'entends. Ça me rappelle
les années 80.
Des bons moments, des années 80, des bons moments, ouais, c'est sûr.
Mais je ne dirais pas l'année.
Ah bah non, moi, non. C'est une année mystère.
Et alors, pour le coup, vous avez l'un et l'autre eu des événements particuliers dans cette année mystère ou pas?
Bah, oui. Je vais commencer, moi. Oui, moi, c'est vrai que peut-être c'est la sortie du Grand Bleu. Et le Grand Bleu, ça a été un film quand même qui a fait parler de lui. À la limite, il y a toujours un film générationnel, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont maintenant une bonne quarantaine d'années, bah, ça a été le film de leur préadolescence.
Un sacré film, c'est sûr. Je m'en souviens, pour le début.
Ça fait. Je crois que c'était. Je crois que dans les années 80, il y a eu deux films sur grand écran. Vous savez, c'est Le Grand Bleu et puis c'était comment ça s'appelle Danse avec les loups. Je trouve que c'était des trucs qui c'était du paysage, c'était de la grande mer, c'était des grandes prairies. Enfin, c'était assez impressionnant comme film. Des films à grand spectacle.
Et pour le coup, sur le film Le Grand Bleu, justement, Ricardo, toi qui es un féru de cinéma, ça te parle, mais Valentin...
Oui, bien sûr. Mais, sans rebondir sur le Grand Bleu, dans le cinéma, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, un des films qui m'avait marqué à l'époque, c'était, c'est un peu plus sulfureux que Le Grand Bleu, c'est Liaison dangereuse ou un truc comme ça, ou Liaison fatale, avec Glenn Close et
Michael Douglas.
Et surtout que Glenn Close, elle fait partie de mes actrices préférées. Donc.
Et toi, Valentine, ce film Le Grand Bleu, il te parle ou c'est déjà passé aux oubliettes dans les jeunes générations?
Je le connais de nom. Après, il est sur ma liste de films à regarder. Parce que c'est un film quand même assez culte aujourd'hui, j'ai l'impression. Et il faut que j'enrichisse ma culture cinématographique. Mais je connais de nom et pour revenir sur ce que tu disais, Ricardo, les lésions dangereuses, je connais aussi.
Et tu l'as vu?
Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder vu comment ma mère aime beaucoup ce film.
Ah oui. Alors, ouais. J'avais un petit doute sur l'année mystère, le film Le Grand Bleu, que je viens de vérifier sur Internet. Je crois que c'est l'année d'après. Je crois qu'il est sorti, mais un an après. J'avais un petit doute là-dessus parce que l'année où c'est sorti, c'est lié à un événement très, très personnel. Et du coup, je m'en rappelle un petit peu. Donc, c'est plutôt l'année juste après.
Ouais. Ah bon?
Je vais mettre une petite critique, moi, sur les films des années 80, puisqu'on est vraiment dans les années 80. C'est qu'ils étaient longs. Très, très long et parfois avec un rythme lent. Ouais. Alors, Le Grand Bleu, hein, c'est pas les dialogues qui font la beauté du film. Il y a des films comme ça, Danse avec les loups, c'est pareil. Il y a des films très, très longues qui rajoutent parfois l'émotion.
Mais c'était profond.
Oui, mais c'était à voir au cinéma.
Tu parles de la mer.
C'est vrai.
Enfin, voilà. C'était profond.
Mais en fait, ces films-là, je trouve. C'est pour ça que Valentine, tu as dû avoir l'occasion de les revoir à la télé parce que depuis, ça fait pas mal de soirées télé. Hein. Que ça soit ça, Le Grand Bleu. Il y avait aussi L'Arme Fatale qui est sortie à ce moment-là. Après, il y a eu des séquences, il y a eu des préquels, plutôt des suites. Hein. Mais c'est vrai.
Mais il le repasse.
Ah oui, bien sûr.
Jean-Jacques, est-ce que vous avez parfaitement entendu?
Pas la dernière phrase, moi.
Alors, moi, autrement, pour l'année 80. Pour l'année. Oh là là!
Voilà. Tu vas y arriver.
Pour l'année 1228, il y a eu la palme au Festival de Cannes. Hein, c'était Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Et là, comme ça a été assez sulfureux, ça n'a pas été accepté par tout le monde. Okay. Et je me rappelle de ce point en avant en disant si vous ne m'aimez pas, moi je ne vous aime pas non plus. Enfin, c'était vraiment assez violent.
Vu que tu restes dans le cinéma, on va quand même rendre hommage à quelqu'un qui est mort récemment, Bébert, avec Le Solitaire, dans la même année, Personne âme, on va dire.
Ouais, absolument.
Mm-hmm. On va faire tout de suite la deuxième pause musicale. Je vous propose. avec une deuxième voix, alors qui n'a rien à voir avec celle de Patricia Cass, surtout à l'époque. Il s'agit de Vanessa Paradis avec Souvenez-vous dans l'année mystère. Alors, est-ce que.
Jouer le taxi.
Exactement. Donc,
on écoute. Bah, en même temps, c'est la plus connue de Vanessa.
Bah oui.
C'est celle qui a fait Vanessa, c'est son premier succès.
Ouais.
La lancée. Donc, on écoute immédiatement et on se retrouve tout de suite après. Donc, c'était Joe le taxi de Vanessa Paradis, une petite voix à l'époque, mais une voix grandissante. Et puis, c'était aussi sa signature vocale au final. On va passer tout de suite à la thématique pour ou contre. Alors, très paradoxal aujourd'hui, puisqu'on avait choisi le pour ou contre, la parité. Alors, désolé, Valérie, tu es toute seule aujourd'hui. Voilà.
Ouais, la parité, elle n'est pas là. Hein.
Valentine, elle nous a fait une sélection musicale plutôt féminine. Donc voilà, ça va rééquilibrer les choses.
Ouais, c'est pour rééquilibrer. En fait, j'avais prévu le nombre de personnes qui allaient être là, donc j'ai décidé de mettre que des filles pratiquement.
Pourquoi pas ?
Bon, la parité, c'est devenu quelque chose, on va dire, d'accepter par beaucoup aujourd'hui. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça a que des intérêts ou est-ce que ça peut montrer des inconvénients? Moi, j'ai pas pris le temps de regarder quand est-ce que les lois étaient passées. Je sais pas si les uns et les autres avaient mesuré ça.
Oui, il y a une loi constitutionnelle du 8 juillet 1999.
Voilà.
Qui met en évidence l'intérêt pour donc les postes politiques d'accroître le nombre de femmes donc par rapport aux postes donc notamment conseillers municipaux entre autres enfin les assemblées politiques en général.
Alors moi je trouve que c'est une bonne chose la parité quand c'est bien appliqué, mais c'est vrai qu'au départ ça ressemblait un petit peu à de la discrimination positive.
Mais il faut ça, c'est clairement ça, c'est de la discrimination positive. Et pour beaucoup de choses, si on ne passe pas de la discrimination positive, on n'arrivera pas à cette parité.
Ouais. Et justement, parce que moi je pense que quand on pense que la devise, c'est liberté, la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Et c'est ce qui concentre un peu les valeurs auxquelles on tient. Et quand on voit la problématique des femmes, par rapport aux hommes dans la responsabilité, dans l'accès aux postes de travail, dans les salaires, etc. On s'aperçoit que par exemple les salaires, c'est mathématique, les salaires sont en moyenne inférieurs en ce qui concerne les femmes par rapport aux hommes. Et à partir de là, je crois que c'est dû à évidemment une construction. Ça a été construit au fil des siècles, c'est culturel, c'est une construction sociale, et ça c'est très difficile à faire bouger. Et donc la loi, ça veut être un accélérateur de ce rattrapage qu'il faut faire. Maintenant, c'est pour ça qu'on est contraint de mettre en place. Si on veut que ça bouge d'une manière concrète, il faut mettre en place des règles, parce que sinon c'est très difficile. Ça avance un peu, mais ça avance très, très, très lentement, enfin, il me semble.
D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc, à la nuance près que, effectivement, pour que ça s'impose à tous, il faut qu'on en passe par les lois. Le sentiment que j'ai, c'est que on n'est pas meilleur dans un domaine parce qu'on est homme ou femme.
Oui.
Alors ça, c'est une certitude, bien évidemment. Il faut pas aussi qu'on tombe dans, enfin, on va dire à compétence. On parle de à compétence équivalente quand on a le choix, mais pour rejoindre ce que dit Jean-Marc.
Non, Marc, c'était Marc.
C'est Marc, tout le monde.
Ah oui. Pardon. j'ai fait un mix entre vos deux prénoms.
Non mais. C'est un mix de qualité, hein.
Je ne sais pas, je pense que je ne rends pas service à un parmi les deux, mais je ne dirai pas lequel, non, je vous embêterai. non mais, on est obligé de passer par des lois, parce que pendant longtemps, pour utiliser le thème qui revient souvent, on a quand même été longtemps dans une société patriarcale où on a contraint les femmes à ne pas avoir accès à l'éducation et au travail. Donc il y a quand même des années de retard pour accéder à certains postes. Donc, du coup, aujourd'hui, on est obligé de passer par ces lois pour que ce soit accélérateur, parce que avant, il y a eu des lois ou des situations implicites qui font qu'elles n'avaient pas du tout accès à tout ça.
Tout à fait, je pense que
c'est évidemment culturel, et il y a des excès dans tous les sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, il y a trop peu de femmes à la direction des entreprises. Là, on en a parlé récemment pour la troisième femme du CAC 40, je crois. C'est évidemment pas équilibré, mais à l'inverse, alors dans un tout autre registre, on voit pas d'hommes maîtres d'école ou professeurs des écoles en maternelle. C'est rarissime. Donc, les choses se sont faites de manière, on va dire, plus ou moins naturelle, alors que ça n'a pas lieu. Je pense qu'effectivement, être grutier ou routier, ça avait du sens il y a 30 ans. Aujourd'hui, avec les outils techniques qui existent, hommes ou femmes, on présente tous les mêmes aptitudes.
Même si ça étonne encore.
Oui, mais je pense, on voit à la télé, il y a une émission sur les femmes qui conduisent des poids lourds. Et c'est vrai qu'actuellement, un poids lourd peut être conduit facilement. Et le métier de chauffeur poids lourd, on peut dire maintenant conductrice, il n'y a aucune difficulté. Même pour charger, décharger, il y a du matériel autour, c'est tout à fait possible. Mais il n'empêche que je crois que le principe, c'est effectivement, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de la différence, mais on peut parler de complémentarité, mais je crois que c'est même pas ça. C'est le principe d'accéder à égalité, à différents statuts, à différentes sortes de pouvoirs. En ce qui concerne le pouvoir, l'accès au pouvoir, c'est quand même bien protégé par la gente masculine, hein, que ce soit dans les entreprises, dans les associations, même on retrouve ça partout. Et donc ça, je pense que là, c'est pour ça que pour faire sauter un peu cette ligne rouge, cette discrimination positive, enfin cette forme de quota ou autre, ça permet de faire avancer les choses. Mais c'est vrai que logiquement, ça devrait se faire naturellement, mais ça se fait pas naturellement parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a cette pesanteur culturelle. Structurelle, sociale, qui fait que ça avance peu, quoi.
Et il y a une bonne part qui vient aussi de l'éducation.
L'éducation aussi, bien sûr.
Oui, il y a l'éducation, et puis il y avait aussi les lois. Je veux dire, le droit de vote des femmes, c'est 1944. Oui. Donc, il y a aussi de ça qui a fait qu'avant, si elles n'avaient pas forcément le droit de vote, elles ne s'intéressaient pas forcément, par exemple, à la politique. Donc, elles n'avaient pas forcément envie ou l'idée d'y participer après.
L'accès au carnet de chèques.
Oui, c'est hallucinant le truc de carnet de chèques. On a
fait. Bien sûr.
Je t'ai un petit peu coupé, mais oui, je pense que tu voulais dire où il fallait forcément un homme ou un tuteur, un mari ou un frère pour co-signer, pour qu'on accepte, pour que la femme ait un chèque. C'est quand même hallucinant.
Ouais, j'ai un souvenir personnel. Mon père, c'est lui qui signait les chèques. La maman ne signait pas les chèques.
Le permis de conduire.
C'était pareil.
Le nombre de femmes qui avaient le permis de conduire jusqu'au début des années 60, ça se comptait vraiment.
Bien sûr.
Il y avait un côté presque infantilisant dans la manière de voir les femmes dans la société.
Vous savez, même quand on voit une voiture... je suis sûr que ça en surprend encore quand il y a un homme et une femme et que c'est la femme qui conduit. Je suis sûr qu'il y a encore un petit étonnement. C'est naturel. Moi, en général, chez moi, c'est comme ça. Mais je veux dire que c'est la femme qui conduit parce que elle préfère conduire, c'est tout. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je trouve par exemple que les chauffeurs de car, de bus dans les villes, c'est souvent maintenant des femmes.
Bien sûr.
C'est très bien d'ailleurs. Mm-hmm.
Sans tomber dans l'excès, on voit bien aujourd'hui que finalement, ce qu'on vivait il y a 100 ans en France, c'est pour ça que je parle d'excès, c'est ce que font les talibans, c'est-à-dire que le droit des femmes dépend des hommes, quoi. Et aujourd'hui, ça nous semble insupportable parce que on est né avec un sentiment et un devoir d'égalité. On en est malgré tout un peu loin, quoi. Mais Valentine, tu ne trouves pas que ce problème il est un peu caduque parce que dans votre génération, je rappelle que Valentine, elle n'a pas 30 ans. Hein. dans votre génération, quand on ne s'identifie plus par le genre, la parité, là, c'est presque un non-problème ou un nouveau problème.
La parité, c'est plus éviter la discrimination dans le sens où parce qu'on est une femme, on ne sera pas choisi. Je pense que c'est plus là-dessus que ça va être assez difficile. Enfin, moi, je pense juste à mon avis personnel. Par exemple, quand on sait que aujourd'hui c'est interdit, mais quand on sait, par exemple, dans les entretiens d'embauche, il y avait certains patrons qui posaient la question de si les femmes voulaient avoir des enfants, et ça pouvait être rédhibitoire. Donc là-dessus, heureusement que ça n'existe plus, ça.
mais attention, je pense que. On entend des discours actuellement reviennent un petit peu en arrière, enfin un peu régressif, je trouve, par rapport à ces questions-là.
Alors moi il y a quand même un truc, je veux avoir un discours, je sais pas, un petit peu trivial, mais ou un peu plus terre à terre, mais je veux juste comprendre quelque chose. En fait, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, il y a un truc qui est commun quand même. La liberté ou le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend, ça s'acquiert. Enfin, on a compris que la partie, on va dire là, pour séparer, pour caricaturer, je dirais, la partie au pouvoir ne veut pas lâcher le pouvoir en général. Ça, c'est connu. Là, aujourd'hui, on est quand même dans une société où dans presque toutes les sociétés, ou à l'échelle mondiale, on a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi les femmes attendent toujours que ce soit l'homme qui cède et qui donne le pouvoir? Pourquoi, par exemple, je prends pour le si aujourd'hui toutes les femmes, je sais que ça se passera, c'est pas aussi simple que ce que je dis, hein, mais si toutes les femmes décidaient d'élire une femme présidente de la République aujourd'hui, elles le feraient parce que elles ont majoritairement le nombre de voix.
Oui.
On ne va pas élire quelqu'un parce que c'est une femme.
Oui, on revient au même débat que à la même chose que Raphaël disait tout à l'heure, mais on ne va pas me dire aussi qu'il n'y a pas de femme compétente. Si on cherche forcément, on trouvera forcément une femme compétente pour être présidente.
Déjà,
au nombre de candidatures de femmes qu'on a déjà, je trouve que bon, on peut. Et si, à un moment donné, pour faire bouger les choses, si elle décidait de passer par, ne serait-ce que la voie, pas une voie légale, c'est possible, parce que majoritairement, vous êtes plus nombreux.
Oui. Après, dire que les femmes, elles font rien, je pense quand même qu'il y a pas mal de mouvements ces dernières années qui sont développés. Le mouvement des féministes s'est quand même beaucoup développé ces dernières années. Donc,
Non, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'elles ne font rien. Justement, je trouve que ça bouge beaucoup. Dans les mouvements féministes, il y a beaucoup de leaders. Je parle du fait j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, forcément, tout ça, c'est important parce qu'il faut rééduquer la société pour que les garçons ou les filles prennent conscience de ça, mais très tôt, que ça sente dans les mentalités. Mais en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de mouvements, c'est dire aux hommes, vous devez lâcher un petit peu de l'est, vous devez lâcher un petit peu de votre place, mais pourquoi vous ne le prenez pas quand? Parce que vous pouvez le prendre.
Tu veux une guerre civile, c'est ça?
Non, non, mais y a des façons électorales, par exemple. Vous êtes plus nombreux. Vous êtes plus nombreuses, donc.
Oui, mais
tu sais, Ricardo, c'est le même principe que dans un pays où il y a un despote, le peuple pourrait facilement. Ils sont plus nombreux, hein, mais je veux dire, rien qu'une poignée de mercenaires arrive à prendre le pouvoir, et pourtant. Donc là, c'est la même chose. Pas facile.
C'est pas de la mathématique, c'est impossible.
Je caricature, hein, je grossis les traits, je tire un petit peu pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui peut être fait, quand même. Enfin, voilà.
Bon, dans tous les cas, tu le disais très justement, Ricardo, prochainement, ce sont des élections présidentielles. Alors, je n'ai pas vérifié combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, mais finalement, il y a autant de chances qu'un homme ou une femme soit élu. On vote pour des idées, on partage, mais ces idées peuvent être portées par une femme ou par un homme indistinctement, quoi. La suite en mars-avril, quoi.
En effet.
Je vous propose de refaire une nouvelle petite pause musicale dans une ambiance un peu plus légère, parce que là c'est un peu grave quand même. On va passer c'est le groupe d'hommes qu'a sélectionné Valentine aujourd'hui, et là on plonge au cœur des années 80.
Chanson à boire, mais ce qui nous rend libre. on n'a rien mangé. On a tous fini complètement noir. C'était pas de la fin de nos déboires. Car il fallait tout de suite à cette histoire. Y'a pas de vent, y'a pas de pain, s'il y a pas de quoi pas.
Ricardo, tu la connaissais ou pas?
Oui, parce que c'est quelque chose qui fait toujours marrer aux apéros.
Je la connaissais pas. Et en fait, il faut savoir qu'elle est restée quand même dans le top 50. C'est la première du top 50 pendant 8 semaines dans cette année.
C'était les copains Patrick Sébastien, ça?
Oui,
oh, probablement, oui. Comment elle est la chanson, je pense.
C'est les chansons que tu écoutes seulement à 2 grammes dans le sang.
Ouais, c'était quoi? C'était quoi le titre?
Donc, alors, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était Licence 4 avec Viens boire un petit coup
à la maison.
Donc, Licence 4, je pense que ça va donner quelques souvenirs à nos auditeurs. Moi, je vous dis, hein, cette année-là, j'étais au collège. La musique qu'on vient d'entendre, pour moi, c'était une musique de mariage. Voilà. Et les mariages étaient bien plus arrosés qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Jean-Jacques et Marc, vous, ça vous évoque quoi cette chanson?
C'est l'ambiance. C'est un refrain, moi, que j'ai dans la tête aussi. Hein.
Difficile de ne pas l'avoir dans la tête, c'est vrai.
C'est devenu culte. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose.
Culte, t'as dit. Ouais.
C'est vrai que tout le monde peut la chanter. On la chante dans des moments de fête.
C'est les chansons à boire, quoi.
Les chansons à boire, oui. Et les chansons à boire dans un pays comme la France, il n'y a pas de souci.
Il y en a.
Ça fonctionne. Hein.
Le pinard, je peux te dire, c'est l'élément le plus fédérateur.
Ah bah oui, quand même, là.
Avec modération, bien sûr.
Bien sûr.
Et je vous propose de passer à la chronique de Jean-Jacques. Jean-Jacques, la chronique UFC aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as choisi?
Ah, la chronique UFC. Alors, j'avais le choix. Hein. Et puis, en fait, je vais parler de logement. Parce que ça peut aider. Hein. En ce moment, on parle beaucoup de la rénovation énergétique. Alors, les bons conseils gratuits par France Rénov, parce que les travaux d'économie dans le logement méritent de la réflexion. Les points d'accueil et la plateforme France Rénov succèdent au réseau FER ou Info Énergie. C'est le meilleur moyen de se renseigner gratuitement et efficacement auprès d'interlocuteurs indépendants des entreprises. Il est difficile pour un particulier d'engager des travaux de rénovation pour économiser de l'énergie. Les techniques complexes d'isolation, les modes de chauffage alternatifs, les aides financières multiples, les priorités pour une meilleure efficacité, ce sont autant de questions plutôt réservées aux spécialistes. Justement, les bonnes informations ne sont pas forcément auprès des entreprises intéressées et surtout pas en démarchage. Le mieux, c'est de s'adresser aux conseillers de France Rénov qui tiennent des permanences sur rendez-vous dans toutes les grandes villes ainsi que beaucoup de communes rurales. Le site internet sous le nom InfoÉnergie, FER ou France Rénov est également très instructif en ce domaine. Ce service public gratuit est animé par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, et celle de l'habitat, ANAH, A-N-A-H. Il existe près de 500 lieux d'information ouverts ainsi au public pour mieux faire et moins cher. Les renseignements fournis sont complètement indépendants et personnalisés en fonction des caractéristiques du logement. Ces conseillers peuvent même ensuite assurer l'accompagnement du client dans son chantier. Ils expliquent les priorités à réaliser, aident au démarchage pour obtenir les subventions et assistent le propriétaire pour la réception des travaux. Cette assistance est toutefois réservée aux ménages éligibles aux aides financières. Ainsi, les propriétaires de logements très coûteux en chauffage, mal isolés et qui ne disposent pas de gros moyens ont tout intérêt à s'adresser à ce service. Ils seront vraiment pris en charge pour la conduite du chantier ainsi que son financement. Et encore plus de précisions, plus de détails, plus d'éclaircissements, n'hésitez pas à aller voir sur le site quechoisir.org. Voilà.
Merci Jean-Jacques. Alors, moi, je vais aller dans ton sens. Effectivement, de faire des économies d'énergie, ce n'est pas si simple. L'an dernier, alors je n'avais pas de cheminée, le mois de janvier avait été très froid, et dans l'année, on a fait monter un poêle qui nous ouvrait des droits à la prime rénov'. Eh bien, c'était un dossier que je pensais facile à monter. Eh bien, au final, la procédure, on ne l'a pas exactement respectée, ce qui fait qu'on n'a pas bénéficié de la prime rénov'. Alors que le poêle que l'on a fait monter par rapport à la même période l'an dernier, là, depuis le 1er janvier, on a économisé 250 euros d'électricité. Donc, la rénovation énergétique, oui, il faut y aller absolument. Ça se mesure en euros tous les mois. Maintenant, c'est vrai que ça demande un investissement et ça demande aussi d'être accompagné pour faire valoir ses droits. On va faire une nouvelle pause musicale féminine. Voilà, et là, on est loin de licence 4. On va écouter France Gall avec Ella, Ella. Donc, je ne sais pas si elle a la bonne information sur la question. On va l'écouter tout de suite. Hein.
Dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir.
oui, c'est ça. On va l'année mystère. Valentine, ta sélection musicale, elle était extraite de l'année
1987.
Donc 1987, je ne sais pas où vous étiez les uns et les autres, mais effectivement, 1987, c'était... alors après la mort de Coluche, on en a parlé il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Moi, je n'ai pas noté d'événement majeur en 1987. Moi, pour moi, c'était Coluche en 86 et Tchernobyl.
Ah, quand même. Et la mort de Dalida.
Lino Ventura,
oui. Ah oui.
Pour les plus calés, il y a Andy Warhol aussi. Hein.
Il y a même Fred Astaire.
Fred Astaire, Rita Hayworth. Il y avait vraiment. Et même Marguerite Yourcenar. Parce que
John Huston aussi.
Non, mais il y avait. Bon, mais on ne va pas parler que des morts.
En 1987, j'ai connu. Trouver les morts, on peut faire les naissances aussi, non?
Ah ben, il y a des
naissances. Là, faut aller voir sur Internet.
Et de chez les vivants, il y avait qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben, il s'est passé plein de choses. L'année où Jean-Marie Le Pen a parlé du fameux détail de l'histoire. C'est-à-dire que les chambres à gaz homicides, c'est un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Donc c'est là,
les camps de concentration. Ouais.
En fait, il avait fait une référence au ministre d'alors qui s'appelait Michel Durafour crématoire.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Hein, après, on lui avait reproché, il avait dit c'est qu'un détail de l'histoire.
C'est quand même l'année où il a fait, on parlait tout à l'heure d'économie d'énergie, cette année-là, il a fait moins 33 à Méribel, le 12 janvier, moins 33 degrés.
Ah oui.
Il a fait très 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 froid. Hein.
C'est du Canada, ça.
Eh bien oui. Et puis, il y a eu le début du tunnel sous la Manche, le démarrage du creusement du tunnel.
Les premiers coups de pelle.
Ouais, les premiers coups de pelle.
Et puis, ah ben oui, c'était Mitterrand et puis Thatcher, c'est vrai. Ouais.
L'ouverture du Futuroscope aussi à Poitiers. Ah, ouais. C'était le démarrage. M6 aussi, M6.
La première d'M6 au mois de mars.
Oui, c'est ça, le 1er mars, ouais. La création d'M6. Et puis, il y a aussi la première sortie de l'A320, cet avion qui tourne encore, et qui était le premier avion avec deux pilotes sur des distances long courrier, et qui avait seulement deux pilotes au lieu de trois.
Il y avait aussi deux événements importants aussi. Il y a eu la libération des fameux otages retenus à Beyrouth.
Oui, Hawk.
Normandin et Roger Hawk. Et puis, il y a eu aussi, début décembre, le premier Téléthon.
Eh oui, premier Téléthon, exact.
Donc, une année qui aura malgré tout marqué l'histoire et qui montre combien je suis inculte.
Il faut se replonger dedans parce qu'on peut dire, voilà. C'était quelle année? C'était vers les années temps, mais si tu te rends vraiment dans l'année précise, là tu te dis, ah ben oui, il y a plein de choses.
Mais comme j'étais un enfant encore, ça n'a pas tant marqué que ça. On se fait une dernière pause musicale et puis après je propose à Jean-Jacques de nous faire son album de l'année. Hein.
D'accord.
On se retrouve tout de suite alors avec un autre style féminin encore. On a eu Patricia Cass, on a eu Vanessa Paradis, on a eu France Gall et on termine cette année mystère 1987 avec Elsa T'en vas pas. Bon, nous on s'en ira quand même, hein, mais on va laisser Jean-Jacques faire sa chronique d'abord. Bon, c'était donc Elsa avec T'en vas pas. Bon, c'est pas encore l'heure de nous quitter, hein, donc on va rester.
Je ne la connaissais pas.
Tu la connaissais pas?
Non.
Je ne connaissais pas. Oh là là, je connaissais une chanson que tu ne connaissais pas.
Voilà.
Comme en fait, il y a eu un clip et c'était avec des images d'un film avec Jane Birkin et puis un acteur dont je ne me souviens plus.
Jean-Jacques, c'est l'heure de ta chronique. Nous t'écoutons avec attention.
Le disque de Jean-Jacques Goldman, entre gris clair et gris foncé, sorti en 1987, est un double album avec un contenu époustouflant de tubes qui sont depuis donc des décennies dans nos têtes. 20 titres, dont certains font plus de 6 minutes, car la part instrumentale y garde la part belle. Les ventes ont été faramineuses, même à l'époque, plus d'un million d'albums vendus. Titres connus, disais-je, comme par exemple « Il changeait la vie ». Là-bas est son magnifique duo avec Sirima.
J'aurais ma chance, j'aurais mes droits. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Ce que tu méritais est à toi. Ici les autres imposent leur loi. Je te perdrai peut-être là-bas. Je me perds si je reste là.
Ensuite, c'est ta chance. Ouais, on les a écoutés, on les a réécoutés ces chansons. Hein. Puisque tu pars.
Que le vent te mène, ou d'autres âmes plus belles, sauront aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus.
Elle a fait un bébé toute seule. Mais enfin, moins diffusé, mais très prisé des femmes, Peur de rien blues, avec de longs, mais très inspirés solo guitare. Dans la liste des guitaristes crédités sur ce disque, il y a le légendaire Patrice Tison, qui travailla jadis avec quasiment tous, de Johnny à Michel Berger, de Céline Dion à Bernard Lavilliers, Christophe, Julien Clerc, Patricia Cass, etc., etc. Là, c'est un duo, sorte de duel, entre Michael Jones, son copain, et Jean-Jacques Goldman. Et c'est très fort. Dans ce morceau, la musique colle parfaitement avec les paroles qui ne sont pas anodines. En effet, Jean-Jacques Goldman avait essuyé pas mal de mauvaises critiques dans différents journaux et magazines, qu'ils soient dits spécialisés dans la musique ou pas, comme Libération ou Rock et Folk. Critique, ou plutôt pamphlet, en particulier en 1985 dans l'événement du jeudi, où il est écrit que Goldman est nul, par un journaliste probablement en quête de reconnaissance, et où il est dit qu'on ne lui prête aucun talent, et où ce chroniqueur s'éclate de façon, je dirais, malsaine, motivé comme pas mal de critiques de spécialistes du rock pour faire ce qu'on appelle maintenant le buzz. Une certaine manière d'exister quelque part. Jean-Jacques Goldman offre ici, dans cette chanson, tout le long de son texte, une réponse pleine de sensibilité, mais aussi avec beaucoup moins d'agressivité, et c'est tant mieux, que Patrice Delbourg, le scribouillard, c'est son nom, mais qui s'en souvient. Robert Charlebois chantait dans une chanson magnifique, ordinaire, « Je me fous pas mal des critiques, ce sont des ratés sympathiques ». Ouais, sympathique, pas tant que ça. Hein. Et Goldman, lui, il dit, quand les juges délibèrent, si je fais mal ou je fais bien, tout est dit, ou presque. Peur de rien, lose.
Il y a les choses qu'on peut faire, et puis celles qu'on ne doit pas. Il y a tout ce qu'on doit taire, tout ce qui ne se dit pas. Des vies qui nous attirent, de brûlures et de clous. Oui, mais ne pas les vivre, c'est encore pire que tout. De sagesse en dérive, de regret en dégoût.
avec une guitare à la main. J'ai peur de rien.
De l'écouter complètement, il est long, mais vraiment c'est vraiment fou quoi, ça y va quoi, au bout d'un certain temps. Après, je sais qu'il y a une version publique hein, qui a été faite, et je veux dire, où là je l'aime moins parce que j'aime moins la fin, mais il revient sur un rythme qu'il a l'habitude de, où il enchaîne, mais c'est bien foutu aussi.
Bon, 6 minutes 17, effectivement, c'est beaucoup de souvenirs, et puis c'est vrai que ça nous replonge facilement dans ces années-là, hein. On y revient. Bon, on va toucher à la fin de cette émission. Je vous remercie tous. Désolé pour les auditeurs hein, d'avoir cette émission enregistrée en visio. Voilà, on n'a pas pu se réunir cette semaine comme on voulait. J'en suis responsable, donc mille pardons. On se retrouve dans...
La plume et le boudron.
Voilà. Pas de fantasme à l'antenne, Ricardo. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de votre émission favorite. Il est l'heure, Monseigneur, sur Radio G 101.5. Merci Valentine pour ta sélection musicale.
Eh bien, de rien, je refais ça quand il veut.
Merci Marc.
Oui, merci. très content d'avoir pu participer à cette émission, même s'il était dans un contexte particulier, mais c'était sympa.
Merci Jean-Jacques.
Alors peut-être, bonjour, bonsoir. Peut-être qu'on pourra peut-être se réunir bientôt, parce qu'apparemment ça a l'air de bien s'améliorer.
Croisons les doigts et restons prudents. Ouais. Et puis merci Ricardo.
De rien, de rien. Merci à toi.
On vous souhaite à tous une bonne semaine et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission.
Hello.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait bon chez les ailes.
Radio G. www.radio-g.fr